sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Marie Cazadebet.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission qui vous fait décrocher le téléphone. Dans une demi-heure, nous rendons hommage ensemble à Fela Kuti, 20 ans après la mort du chanteur nigérian, père de l'afrobeat, incarnation de l'artiste engagé. Qui sont ses héritiers? Existe-t-il dans votre pays des chanteurs qui font preuve d'autant d'engagement? Appelez-nous au 33 9 693 693 70 ou bien laissez-nous vos commentaires sur Facebook. Avant cela, comme chaque jour, vos questions sur l'actualité, nos experts, nos journalistes pour y répondre. Nous allons parler ce matin de la réforme judiciaire très controversée en Pologne, des relations entre la Russie et les États-Unis, d'un remaniement ministériel au Tchad, mais d'abord du vote d'une loi en France avec Nicodème qui nous appelle de N'Djamena au Tchad. Bonjour Nicodème.
Bonjour Marie et bonjour à votre invité, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
On écoute vos questions Nicodème.
Ok. L'Assemblée française a voté l'interdiction d'un des emplois familiaux pour les parlementaires. C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron. Alors voici une question. Comment expliquer les députés avaient voté facilement l'interdiction pour les ministres, mais étaient divisés pour le Parlement? Et un député d'IDI a proposé un amendement pour étendre la mesure aux collaborateurs, aux groupes parlementaires. Pourquoi a été rejeté?
Nicodème, c'est Thomas Guénolé qui va répondre à vos questions. Bonjour Thomas Guénolé.
Bonjour.
Vous êtes politologue, maître de conférences à Sciences Po, auteur de l'ouvrage « Petit guide du mensonge en politique » qui a été réédité en 2017 chez Fayard. Et Nicodème évoquait donc cette loi votée donc par les députés il y a quelques jours qui interdit donc l'emploi de membres de sa famille pour les ministres, les parlementaires et les élus locaux. Interdiction d'employer donc des membres de sa famille proche et obligation de déclarer l'emploi pour toute personne du second cercle. On parle de l'ancien famille et des proches donc qui ne font pas partie de la famille. Et la première question donc de notre auditeur, c'est comment expliquer donc que les députés n'aient pas eu de mal à voter cette interdiction pour les ministres, mais qu'ils aient été plus divisés pour les parlementaires?
Pour la même raison que dans n'importe quelle profession, on est beaucoup plus rétif par rapport aux régulations envers soi-même que envers les autres. Par exemple, un banquier va vous expliquer que, en général, qu'il faut être extrêmement rigoureux vis-à-vis des gens qui font des prêts chez eux, parce que voilà, c'est comme ça que ça marche, c'est important, il faut avoir le sens des responsabilités. Et puis dans la foulée, sa banque va être contre le fait de mettre des régulations supplémentaires sur la banque elle-même quand elle prête de l'argent. Et donc c'est toujours le même mécanisme, c'est-à-dire que les députés sont dans une logique « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais ». C'est malheureusement quelque chose d'extrêmement répandu dans diverses professions, mais dans le cas des députés, c'est effectivement choquant parce que ce qui est choquant finalement, c'est l'intransigeance vis-à-vis des membres du gouvernement et des élus locaux pour ensuite s'exonérer soi-même de la règle qu'on vient d'affirmer avec un coup de poing sur la table. Je note par ailleurs une énorme contradiction, c'est-à-dire que la promesse d'Emmanuel Macron, c'était voilà, on va arrêter totalement les emplois familiaux rémunérés sur argent public pour les députés. Mmh. Et dans le même temps, il va créer un emploi familial à l'Élysée, puisque la première dame sera rémunérée sur argent public avec un statut spécial. Donc il faut qu'on m'explique, c'est pas cohérent.
Brigitte Macron, effectivement, et beaucoup de députés ont soulevé cette contradiction-là. Je cite juste Annie Genevard, qui est des Républicains, qui dit en gros qu'un animal est malade et on abat tout le troupeau, l'impression de payer très cher finalement le cafillon, puisque c'est après la campagne présidentielle qu'Emmanuel Macron, ou pendant la campagne, qu'il a promis de faire le ménage, on va dire, de nettoyer un petit peu tout ce système. Est-ce que vous comprenez cette impression?
Oui, je la comprends tout à fait, pour être tout à fait sincère, parce que, il est relativement facile de prouver la réalité d'un travail. Vous voyez, l'auditeur qui a posé la question, si demain nous voulons prouver que à nos postes respectifs, nous accomplissons un travail, nous n'aurons en réalité aucune difficulté. Nous trouverons des témoins, nous aurons des mails qui prouvent des échanges d'informations et des échanges de livraison de contenu, nous aurons la possibilité de montrer que nous étions à telle heure, à tel endroit, etc., etc. C'est facile en réalité de prouver qu'on fait un travail. Et donc, au lieu d'interdire purement et simplement tout emploi de toute personne qui est dans votre famille aux députés. Mmh. Moi, pardon, j'aurais préféré qu'il y ait tout simplement une enquête extraordinairement rigoureuse, député par député, de manière très régulière, hein, de faire tout le temps des contrôles là-dessus, non pas sur le fait que ce soit des membres de la famille ou pas, mais sur le fait qu'il y ait la réalité d'un travail qui soit accompli, preuve à l'appui. Mmh. Parce que moi, dans l'affaire Fillon, ce qui me choque, ce n'est pas qu'il ait employé sa femme, c'est que dans toute l'affaire, à ce jour, Pénélope Fillon n'a produit aucune preuve de la réalité d'un travail qui justifierait la rémunération. C'est pas que ce soit un membre de sa famille qui est choquant, c'est qu'il n'y ait pas eu travail en contrepartie d'un argent public qui a été versé.
Et du coup, et donc, là, vous dites avis, que finalement, c'est des sanctions en amont, avant même que la faute ait été commise.
C'est du délit de sale gueule, en fait, pour être tout à fait clair. C'est pour ça que moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que, si vous voulez, je vais vous le dire plus brutalement, plus simplement... Ce n'est pas parce qu'un assistant parlementaire est membre de la famille du député qu'il n'est forcément en train de ne rien foutre. Et ce n'est pas parce que l'assistant parlementaire n'est pas membre de la famille qu'il est forcément en train de travailler pour de vrai.
En tout cas,
donc,
cette
ce qu'il
loi.
Faut, c'est contrôler la réalité du travail.
En tout cas, cette loi, Thomas Guénolé, fait déjà des victimes. Certains députés expliquent un peu leur situation, comme Yannick Favennec, donc, qui est député UDI de la Mayenne, et qui a donc dû licencier sa femme assistante parlementaire, alors qu'il explique effectivement. Elle pourrait très facilement prouver qu'elle travaille réellement pour son mari. Merci beaucoup d'avoir été en ligne avec nous pour répondre aux questions de Nicodème qui nous appelait de N'Djamena. On va partir maintenant pour Boisquet pour accueillir Eric. Bonjour Eric.
Bonjour Marie.
Eric, vous vous intéressez à la Pologne?
Tout à fait. Le président polonais Andrzej Duda a opposé un double veto contre deux des trois réformes de la justice pourtant adoptées par le Sénat. Alors, comment comprendre que le président polonais s'oppose tout fermement à la première ministre sur ce sujet alors qu'elle fait partie de sa formation politique? Ensuite, pourquoi a-t-il donné son feu vert pour la réforme donnant le droit au ministre de la Justice de nommer et de révoquer des magistrats des tribunaux du droit commun?
Alors Eric, la ligne avec Boisquet n'est pas très bonne. Hein. Je vais reprendre vos questions et les poser d'ailleurs directement à Piotr Mouchinski qui nous a rejoint en studio. Bonjour Piotr.
Bonjour Marie, bonjour à tous.
Alors effectivement, notre auditeur a du mal à comprendre comment le président, pourquoi le président s'est opposé donc à cette réforme qui avait été préparée par sa première ministre, une femme évidemment issue de son propre parti.
Eh bien c'est la question qui est sur toutes les lèvres en Pologne. Pourquoi le président a-t-il décidé de s'opposer ouvertement à la volonté du gouvernement et surtout à celle du seul véritable maître du pays, Jarosław Kaczyński, chef du parti ultra-conservateur Droit et Justice au pouvoir? Comportement d'autant plus étonnant qu'Andrzej Duda était considéré jusqu'à présent comme un président extrêmement passif et dépendant totalement de Jarosław Kaczyński.
Alors d'où vient ce brusque changement, Piotr?
Les commentateurs et les experts en Pologne sont divisés sur ce point. Deux principales hypothèses circulent à Varsovie. Selon la première, Andrzej Duda aurait opposé son veto aux deux lois en pleine concertation avec Jarosław Kaczyński. Celui-ci aurait souhaité améliorer l'image du président auprès de l'opinion publique en lui offrant une possibilité de se montrer ferme et autonome. À l'occasion, Kaczyński aurait voulu tempérer les ambitions du ministre de la Justice à l'origine des trois nouvelles lois qui lui attribuaient d'énormes compétences et prérogatives. Selon la deuxième hypothèse, le conflit au sein de Droit et Justice serait réel et Andrzej Duda aurait ouvert les hostilités en espérant rassembler autour de la présidence la frange modérée du parti qui supporte de plus en plus mal la politique aventuriste menée par les radicaux proches de Jarosław Kaczyński. Ceux qui partagent cette version des faits pensent que le président est soutenu par la très influente Église catholique, effrayée par le niveau de tension et la profondeur des divisions provoquées par la politique de Droit et Justice. En tout cas, on sait qu'Andrzej Duda n'aurait jamais défié son propre parti et gouvernement sans s'assurer d'abord d'un soutien sûr et solide, par exemple celui de l'Église. On sait également qu'à la veille de l'annonce de ses vétos, il s'était rendu au célèbre monastère de Częstochowa où il aurait rencontré plusieurs évêques.
Alors en fait, le président Duda a mis son veto pour deux textes, mais il a donné son feu vert à un troisième, un feu vert donc pour qu'il soit possible de révoquer les magistrats des tribunaux de droit commun. Pour quelle raison ?
Cela semble faire partie d'un calcul politique assez risqué et témoignant plutôt du peu d'expérience et de talent politique du président Duda. En effet, face aux trois lois très controversées portant réforme de tout le système judiciaire en Pologne, le chef de l'État n'avait en réalité que deux choix possibles, soit promulguer toutes les trois lois, soit n'en promulguer aucune. La solution qu'il a choisie est un faux compromis, compréhensible sur le plan psychologique, mais désastreux sur le plan politique. Certes, on peut comprendre que le président veuille montrer à son propre camp qu'il ne souhaite pas aller trop loin et rompre toutes les amarres, mais sa décision de rejeter deux lois et de signer la troisième l'expose à la colère venant de deux côtés de la barricade. Son propre camp lui reproche d'avoir opposé son veto à quoi que ce soit, tandis que l'opposition trouve scandaleux qu'il n'ait pas opposé son veto à toutes les trois lois.
Merci beaucoup Piotr Moszynski d'avoir répondu aux questions d'Éric à Boisquet. Il est 8h21 en temps universel, 2h de plus ici à Paris. L'heure d'accueillir maintenant Gabin qui nous appelle de Libreville. Bonjour Gabin.
Oui, bonjour Marie.
Vous intéressez-vous aux relations entre la Russie et les États-Unis, Gabin ?
Oui, c'est ça. Voilà, le Congrès américain a récemment voté des sanctions contre la Russie, notamment en raison des soupçons d'ingérence lors de la dernière présidentielle. Voilà, je voulais savoir déjà, la Russie à son tour a réagi en annonçant l'expulsion de plus de 750 diplomates américains sur son sol. Voilà, donc je voulais savoir, face à cette annonce de la Russie, comment la Maison-Blanche réagirait de son côté, comptait réagir de son côté. C'est ma première question.
Merci Gabin. On va la poser tout de suite à Yves Boyer, directeur scientifique du Forum du Futur, professeur émérite de l'École Polytechnique, spécialiste des relations internationales. Bonjour Monsieur Boyer.
Bonjour.
Alors il faut peut-être rappeler que ces sanctions russes, en fait, sont une réponse à des sanctions américaines qui datent de Barack Obama, c'est bien ça ?
Oui, enfin, dans le cas russe, je ne parlerai pas de sanctions, parce qu'il n'y a pas eu de sanctions décidées à l'encontre des États-Unis. Et, du côté du Kremlin, on a réagi à l'expulsion qui avait eu lieu en décembre dernier de diplomates russes en poste à Washington. Et puis, ce qui a peut-être fait déborder le vase, c'est l'histoire des deux villas qui servent de lieu de villégiature aux diplomates russes présents aux États-Unis, avec une villa à New York, une villa à Washington, qui, précisément en décembre dernier, ont été saisies par les Américains, et ceci en dépit de la loi internationale. Donc les Russes avaient demandé à ce que ces deux villas reviennent à l'ambassade, et ça n'a pas été le cas. Donc le Kremlin a décidé deux choses. Il a décidé de saisir deux villas qui servent aux diplomates américains à Moscou pour la villégiature. Et d'autre part, le Kremlin a décidé d'égaliser, si je puis dire, le nombre de diplomates russes avec celui des diplomates américains présents à Moscou. Il faut savoir qu'à l'ambassade américaine, il y avait 1210 diplomates. Donc en expulsant 755 diplomates, eh bien on a 455 diplomates américains à Moscou et 455 diplomates russes à Washington.
Mais donc, pourquoi le faire maintenant, Monsieur Boyer ? Vous dites que l'expulsion des diplomates russes remonte à décembre. Donald Trump avait conseillé à Vladimir Poutine de ne pas répondre à ces expulsions. Puis finalement, il le fait. Pour quelle raison ? Est-ce que c'est parce que les relations entre la Russie et les États-Unis se sont vraiment dégradées ? Donald Trump d'ailleurs espérait de meilleures relations avec Moscou. Finalement, ça n'a pas été possible.
Je crois que, si vous voulez, on peut imputer à Moscou un certain nombre de griefs et de défauts, mais il faut bien voir qu'aux États-Unis, il y a un double jeu qui est en train d'être mené. Il y a un jeu interne et un jeu externe. Et le jeu externe, c'est vraiment de durcir l'attitude, la politique américaine à l'égard de Moscou, avec des retombées extrêmement négatives pour les Européens, puisque dans la loi qui vient d'être votée par le Congrès sur les sanctions, sur une augmentation des sanctions à l'encontre des Russes, Suisse, il y a des paragraphes tout à fait inquiétants pour les Européens qui ont suscité une réprobation du président de la Commission, M. Juncker. Vous avez le ministre allemand des Affaires étrangères, la ministre allemande de l'économie, le chancelier autrichien qui ont dit que ce qui était édicté dans la loi américaine était tout à fait inacceptable pour les Européens, dans la mesure où les Américains vont au-delà des simples sanctions en disant finalement aux Européens c'est pas très bien pour vous de commander et de vous approvisionner en gaz russe et donc acheter du gaz liquide américain, et donc nous on condamne toute société européenne qui travaillera à la construction du second pipeline qu'on appelle le Nord Stream 2, ce qui est totalement contraire aux intérêts européens et notamment aux intérêts allemands.
On comprend donc que la détérioration des relations entre la Russie et les États-Unis vont avoir des conséquences sur les relations aussi avec l'Union européenne. Merci beaucoup monsieur Boyer d'avoir répondu aux questions de Gabin. Une dernière question, un dernier sujet évoqué par Fayala qui nous appelle de Doko en Guinée. Bonjour Fayala.
Bonjour Marie, bonjour à tous les auditeurs spéciaux à Juan Gomez et à un grand rédacteur Jambaya Mouruba ici à Tombogo.
Bon, on lui passera le message, merci Fayala. Dites-nous, vous vouliez parler du dialogue social au Tchad?
Oui, Thomas. Au Tchad, le ministre des Affaires sociales, Abdelkerim Boss, a été limogé de son poste en raison du refus du dialogue social avec les syndicats, Marie. Je voudrais savoir... Mamata Adepte, qui le succède à ses postes, a toujours les marges de manœuvre pour renouer le dialogue avec les syndicats.
Et vous aviez une deuxième question que je vais poser tout de suite aussi à Fabrice Vimeau qui nous a rejoint. Bonjour Fabrice.
Comment les syndicats ont réagi à l'annonce de limogeage du ministre Abdel Salim Saïd et également à la nomination de son successeur?
Voilà, on va parler tout de suite donc avec Fabrice Vimeau. Bonjour Fabrice.
Bonjour Marie, bonjour Fayala.
Donc il y a eu un léger remaniement annoncé il y a une semaine. Hein, il concerne donc surtout le ministère chargé du dialogue social. C'est donc Mahamat Adef qui prend le poste. Comment compte-t-il faire pour renouer le dialogue avec les syndicats qui est paralysé?
Alors pour le nouveau ministre du dialogue social, il faudra inévitablement revenir sur certains points qui cristallisent la mésentente, je veux dire, entre le gouvernement et les syndicats. On peut citer à titre d'exemple la suspension de deux mesures auxquelles les syndicats tiennent particulièrement: les effets financiers des avancements dans la fonction publique, c'est-à-dire pour une promotion dans la fonction publique, une revalorisation salariale, ce qui a été supprimé par le gouvernement, et la prise en charge des frais de transport des travailleurs. Donc voilà les conditions sine qua non pour que les syndicats reviennent à la table des discussions. Et c'est peut-être la première mission difficile de Mahamat Adef, qui a finalement un rôle peu enviable, je dirais, d'équilibriste entre l'État qui cherche absolument à faire des économies au détriment des fonctionnaires et sa position de ministre du dialogue qui l'oblige à trouver un terrain d'entente avec ces mêmes fonctionnaires. Donc, le retour au dialogue dépendra de sa position vis-à-vis des revendications des
syndicats. Surtout que ce dialogue social est un enjeu extrêmement important pour le Tchad.
Exactement. Et pour comprendre cette importance, il faut rappeler quelques faits. Le gouvernement tchadien, qui traverse une grave crise financière depuis près de 2 ans, s'est lancé dans une déduction des charges de l'État. Et pour cause, la masse salariale de la fonction publique aurait été multipliée par 6 en 15 ans. Les syndicats accusent le gouvernement d'avoir voulu, en fait, acheter la paix sociale à travers des créations de postes dans la fonction publique. Et donc les fonctionnaires trouvent qu'il est hors de question aujourd'hui pour eux de faire les frais de cette crise. Donc il y a eu 4 mois de grève fin 2016 avant la mise en place de cette fameuse plateforme de dialogue. C'est un peu le gage de la trêve entre les deux camps.
Un mot sur la réaction des syndicats à ce changement donc au poste de ministre chargé du dialogue social. Comment ont-ils réagi?
Oui, eh bien la plateforme syndicale est bien décidée à ne pas faire de cadeau au nouveau ministre du dialogue social. Mais la marche à suivre pour la suite reste encore floue. La plateforme syndicale regroupant 3 syndicats, certains souhaitent reprendre les discussions mais sans transiger sur leurs conditions. Et il y a ceux qui menacent de rompre la trêve sociale et plonger la fonction publique dans une nouvelle grève. Donc si vous voulez, la grève, la menace de paralysie de l'administration sera permanente et sera une épée de Damoclès sur le nouveau ministre.
Merci beaucoup Fabrice Vimeau. Dans 30 secondes, le journal et appel sur l'actualité revient avec le débat du jour.